Si Dieu était changeant, capricieux, caractériel, on ne saurait jamais à qui on a affaire. Est-il de bonne humeur ce matin ? Il est invariable. Ce qu'il a toujours été, le sera toujours. S'il changeait un peu, je pourrais me dire, va-t-il encore changer ? Jusqu'où ça va aller ? Dieu est immuable. Nous allons ensemble ouvrir à nouveau l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, et nous y allons de temps en temps, nous revenons, nous faisons des allées-venues, et nous sommes au chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Où nous avons déjà lu l'importance de la patience que l'on travaille dans les épreuves de la vie et l'importance de la parole que l'on doit accueillir avec douceur. Alors Jacques 1, 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, son visage de naissance, son visage humain, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, dans tout ce qu'il fait. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Religion, c'est servir Dieu, ce qui met en lien avec Dieu. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Bénis ta parole, qu'elle soit accompagnée dans notre cœur d'une nouvelle vitalité, d'une lumière sur des choses que nous ne connaissons pas. Éclaire-nous, instruis-nous, donne-nous ton conseil. Amen. La parole de Dieu, la Bible, depuis 5 siècles, il y aura 5 siècles l'an prochain, les réformateurs ont remis en lumière l'importance que chaque chrétien ait un accès direct, sans intermédiaire, avec la parole de Dieu. Et tout de suite, Luther a traduit la Bible en allemand. La Bible, la parole, était leur arme, leur inspiration, c'était leur forteresse. Ils vivaient que pour ça. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous recevez la parole de Dieu, je veux vous dire qu'elle agit en vous. Elle vous sauve. La parole de Dieu, ce sont des actes. Dieu est à l'œuvre quand on l'écoute. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Écoutez-la avec douceur. Ce qui veut dire avec un esprit prêt à entendre tout. Écoutez-la en rejetant tout ce qui empêche d'écouter pour qu'elle prenne racine, rejetant les excès de méchanceté, les souillures du monde, tout ce qui tourne, encombre, pèse dans notre esprit. On doit avoir un esprit comme la bonne terre, la parabole de Jésus, le frère de Jacques. cette parole que nous chantons, que nous aimons, que nous écoutons ce matin, c'est Jésus-Christ. L'Évangile, c'est Jésus-Christ. Cette parole, elle est plus forte que toutes les puissances de mammon, puissance de pesanteur, puissance qui terrorise le monde aujourd'hui. Les apôtres disaient autrefois, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous, parce que vous avez vaincu le malin. Vous parlez comme ça. Vous êtes forts si vous lisez les Écritures, si vous les mémorisez. On a eu une levée de bouclier parfois en disant, faut pas mémoriser, c'est trop humain. Il faut mémoriser parce qu'il faut la garder. Et pour la garder, il faut la mettre dans sa mémoire. Que Dieu vous aide. Amen. Cette parole qui est vivante, qui nous accroche, qui descend au plus profond de nous, c'est la force de Dieu à notre service, près de nous. C'est une parole qu'il nous donne comme l'eau, comme l'air, comme le soleil. Aujourd'hui, il y a du soleil. Et il nous donne pour le plus profond de nous-mêmes, il nous donne une parole qui peut descendre jusqu'à la moelle des os. Hébreux chapitre 4. Mais faites attention, frères et sœurs. Faites attention à une chose. Nous pouvons nous tromper. Nous pouvons, le mot tromper dans Jacques, c'est dériver, comme une barque qui dérive sur le courant, qui s'en va. Faisons attention. Nous pouvons nous tromper si nous l'écoutons seulement. Si nous l'écoutons seulement, je pense que le malin nous a trompés. Je pense que nous nous sommes trompés. C'est comme si vous regardiez un bon pain frais du jour et que vous ne le mangez pas. Devant le bon pain, vous allez mourir de faim. Je pense que la manœuvre du diable, c'est de ne pas nous interdire d'écouter, mais c'est de nous interdire de mettre en pratique cette parole. Elle doit visiter mes pensées. Je dois la vivre dans mes sentiments, dans mes pensées, dans tout ce que je fais, dans mes relations avec ma femme, les enfants, les parents, les frères et sœurs. Il faut que la Bible soit notre inspiratrice. Il faut la laisser nous diriger. Il faut la pratiquer. Il faut la laisser nous pousser, nous porter, nous arrêter parfois quand on est sur un chemin de mort. Il faut qu'elle nous parle pour nous dire « Stop !» La relation que tu commences actuellement est dangereuse. Il faut la laisser nous convaincre, nous opérer, parfois sans anesthésie, parce qu'on a besoin qu'elle retranche de nous certaines choses. Il faut que cette parole, la mettre en pratique, ça veut dire qu'elle nous corrige, qu'elle nous transforme, qu'elle nous redresse, qu'elle nous ressuscite. Il faut faire cette parole ensemble. Amen. Je pense que Jacques, ce matin, il enseigne aussi l'Assemblée de Rennes. La parole, c'est comme le plan d'un architecte. L'architecte nous donne le plan, et il nous donne les matériaux, il nous donne la marche à suivre, et nous, nous bâtissons. Nous bâtissons ou nous ne bâtissons pas. La pratique n'est pas obligatoire, je ne la vois pas forcément chez tout le monde. Des gens me disent, mais mes frères, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Voilà, le cachet de la poste faisant foi. Mais qui ne pratique pas, qui ne vivent pas avec Jésus, qui ne pleurent pas avec Jésus, qui ne se réjouissent pas avec Jésus, qui ne portent pas le royaume. Jacques nous dit, ceux-là, ils se trompent, ils dérivent. Nous devons bâtir notre vie sur les paroles solides comme le roc de Jésus. La foi, c'est écouter et c'est faire. C'est recevoir et donner. C'est entendre les instructions et les pratiquer. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, jeune église, magnifique, 3 semaines, une église est née. nous nous rappelons sans cesse le travail de votre foi. Ils n'ont pas seulement dit « Seigneur, je crois, Amen ». Ils ont prié, ils se sont tendus la main, ils se sont portés, supportés, ils ont agi, ils ont travaillé, ils ont pratiqué l'évangile que Paul leur avait donné. Quand on entend l'évangile, on reçoit une force pour pratiquer. Dieu nous donne l'intelligence, dit le psaume 119, pour observer les commandements. Avec cette parole si puissante, si efficace, si vivante, qui descend tout au fond de notre être, ne vous limitez pas à écouter seulement. Vous avez un trésor et vous ne vous en servez pas. Vous avez un trésor plus grand que l'or et l'argent du monde. Et ceux qui ne pratiquent pas, qui trichent encore, qui mentent, qui jouent avec le mal, eh bien, ils se privent, ils restent pauvres. J'ai connu des gens qui avaient de grandes richesses dans leur cave ou dans leur coffre-fort et qui ne s'en servaient jamais. C'était des gens pauvres. J'en ai même connu un qui mendiait avec une grande richesse sur son compte. Je pense que les chrétiens sont un peu comme ça parfois. Ils ont une parole qu'ils ne mettent pas en valeur dans leur vie. Ne vous trompez pas, dit Jacques. Ne dérivez pas. Ne vous laissez pas aveugler par la puissance du jeu, puissance de l'argent, puissance des vacances, puissance des distractions. Et à côté de ça, vous ne faites pas l'essentiel. On n'a pas beaucoup de temps à vivre. Il faut faire l'essentiel. Ne vous limitez pas à seulement écouter. Jacques, il démolit une fausse bonne conscience. Combien de gens m'ont dit « Mais je crois dans le Seigneur. Il ne faut pas faire des œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. » Non. On est sauvé pour des œuvres, mais pas sauvé par des œuvres, mais pour faire quelque chose. Quand Israël est arrivé dans sa terre promise, à la porte de la terre promise, il aurait pu dire « Seigneur, tout est fini, tout est réglé. » C'est pas fini, ça commence, mes amis. Et Moïse leur a dit « Je te prescris de la part de Dieu, aujourd'hui, d'aimer le Seigneur ton Dieu et de pratiquer ses commandements. » Deutéronome, chapitre 30. Pratiquer la parole de Dieu. À la Pentecôte, 3000 juifs se sont convertis en écoutant la prédication de l'apôtre Paul. Mais ils n'ont pas dit « bravo ». Il a bien parlé, hein, il a bien parlé. Ils ont dit « non, homme frère, que faut-il faire ?» Et Pierre leur a dit « repentez-vous. Mettez en pratique la parole et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. » Il y a une pratique, il y a une vie. La parole de Dieu ne fera pas de nous des chrétiens saints sans notre participation. Ne fera pas de nous des chrétiens saints par la force. La parole attend votre obéissance. Elle ne fera rien si elle est en dehors de vous, comme un corps étranger, comme un satellite. Le Seigneur disait à Israël, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Les paroles que je te dis, tu les mettras sur tes mains, entre tes yeux, sur les poteaux de ta porte. Tu en parleras partout. Cette parole, tu en vis, tu dors avec. » Tu manges avec, tu vas en vacances avec et tu reviens avec. Amen. C'est ça. Écoute Israël, que la parole ne te lâche jamais. Frères et sœurs, nous pourrions donc échapper au pouvoir de cette parole. On écoute, on est content, mais on ne fait rien. On échappe ainsi au pouvoir de la parole, pouvoir de transformation. Quand les apôtres ont vu Jésus laver les pieds des disciples, ils ont été étonnés quand même. Et puis ils ont dit, si moi je vous ai fait ça, moi le Seigneur, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Et Jésus leur a dit devant ces apôtres étonnés, si vous savez toutes ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Savoir, c'est une chose, mais il faut pratiquer ce que l'on sait. Ce que j'apprends, je le mets dans ma vie et j'essaie de l'appliquer dans mes relations, dans ma vie de solitude, dans ma vie privée, dans ma vie de pensée, dans mes actes. Je mets la parole à l'honneur. Je fais ce qu'elle me dit. Jésus dit la même chose. Si nous ne pratiquons pas, si nous vivons sans la parole, sans Jésus, sans consulter Dieu, sans dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Que penses-tu de cette situation ?» Si on vit sans la parole, Jésus dit « Vous bâtissez sur du sable. » Et un jour, il y aura une difficulté avec un enfant, avec la santé, je ne sais pas, la vieillesse, et la ruine sera grande. Si nous ne vivons pas avec Jésus, nous sommes sans Jésus. C'est logique. Jacques, il nous dit autre chose. Celui qui ne pratique pas, il ressemble à un homme qui regarde le matin dans son miroir comment il est, puis qui s'en va sans rien faire. Il est mal coiffé, il a du chocolat autour de la bouche, il n'est pas lavé, sa casquette est mal mise, et puis voilà, il se regarde et il continue. Il ne change rien à son allure, son comportement, sa mise. Il oublie son visage. Vous avez remarqué qu'on oublie beaucoup notre visage ? Moi, je ne me vois jamais, et vous ? À part le miroir. Et combien de fois je vois des gens qui se regardent toujours dans un miroir ? Parce qu'ils oublient, ils ne savent plus comment ils sont. Alors, il faut toujours qu'ils se rappellent. On ne se voit pas. C'est pas vrai ? Mesdames et messieurs, amen. Parfois, le miroir, « Miroir, dis-moi que je suis la plus belle ou le plus beau », le miroir, parfois, il n'est pas très gentil avec nous. Il y avait une reine qui cassait les miroirs parce que les miroirs lui montraient qu'elle vieillissait. Alors, la solution pour ne pas vieillir, casser les miroirs. Mais la parole de Dieu, c'est un miroir qu'on ne casse pas. Et la parole de Dieu nous révèle ce que nous sommes, ce que nous devrions être. Et ce que nous serons. Le miroir de la parole de Dieu, parfois, on ne le supporte pas. Parce que ça nous reprend, nous corrige. On ne le supporte pas et on l'oublie un peu. On ne change rien à sa vie, peut-être tortueuse, dans le mensonge. Il faut regarder le miroir de la parole. Le mot exact, c'est « plonger ». Exactement, c'est « se baisser pour regarder ». Comme Marie de Magdala, le matin de Pâques, se baissait pour regarder dans le tombeau où était Jésus, où il n'était plus, mais où avait été Jésus. C'est se baisser pour regarder. Prendre son temps, on ne lit pas la Bible au volant. On s'assoit, on regarde avec attention. Je vais m'acheter une Bible avec gros caractères parce que j'ai encore une bonne vue, mais je crois que quand je vois des gros caractères, ça me saisit davantage. Bon, c'est mon affaire. Parce qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Être chrétien, ce n'est pas une décision coup de tête, c'est une recherche constante. Constamment, je regarde ce que Dieu aime. Parce que il nous faudra nous présenter à Dieu bientôt, sans rougir, devenus parfaits par le Christ, parce que nous aurons travaillé à notre salut. Plonger les regards dans la Bible pour savoir ce qu'elle nous demande, pour pratiquer, ça veut dire persévérance. Et en regardant avec persévérance, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir que vous commencez quand même à ressembler à Jésus. Vous ressemblez tout doucement à Jésus. Vous devenez tout doucement les imitateurs du Seigneur. En regardant la parole, vous allez dire, oui, ça, je le vis. Ça, je l'ai expérimenté. Vous allez vous reconnaître. Quand vous vous regardez dans la parole, Est-ce que vous voyez l'homme nouveau qui commence à grandir en vous? Ou est-ce que vous voyez dans la parole un cactus? Vous aimez les cactus? Qui piquent. Mais si peut-être vous regardez ce matin ou demain dans la parole, peut-être que vous allez voir en vous, vous allez voir des choses qui correspondent à votre vie et qui sont l'homme nouveau qui commence à apparaître, l'image de Dieu, encore un peu confuse, encore un peu trouble, mais l'image commence à monter. J'ai fait un peu de photographie pour imprimer autrefois et on faisait des bains pour que la photo puisse se révéler. Au début, c'était très noir, très, très flou, et de plus en plus, la photo apparaissait, le visage apparaissait. Et quand on regarde dans l'Écriture, eh bien, l'image monte, elle apparaît, mon image, ma vie, mon visage, ce que je fais, je vois si c'est conforme à Dieu. Et puis, en regardant bien dans la parole de Dieu, eh bien, on voit Jésus-Christ. Parce que dans la Bible, partout, dans tous les livres de la Bible, ce que je vois, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se reflète dans la parole. Et Jésus-Christ se reflète sur nous. Je vous dirai un jour que la Bible, c'est un jeu de miroir. Jésus se reflète sur la parole, Jésus se reflète sur notre visage, il se reflète sur notre vie et il nous fait devenir semblables à lui. Il y a un jeu de miroir. Si nous contemplons le visage découvert, la gloire du Seigneur dans l'Écriture, nous devenons comme le Seigneur, semblables à lui. Amen. C'est le miracle du Saint-Esprit. C'est le miracle de la nouvelle naissance, de l'action de Jésus. Amen. Donc il ne faut pas seulement recevoir comme des récepteurs. Il faut faire, pratiquer. Dans tout ce que vous faites, que faites-vous pour le Christ? Pour lui faire plaisir, pour lui être agréable. J'aime bien ce verset des Colossiens. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est un commandement. Il faut le pratiquer. Ça veut dire laisser Dieu. Je vais prendre la version, une version malgache. Les Malgaches, ils ont employé un mot, là, pour ça Thierry me dira, ou Niela, ils ont employé un mot qui signifie « transférer Dieu dans notre cœur ». J'ai bien aimé. Pas vous ? Transférer Dieu. Comme des élus de Dieu bien aimés et saints, laissez le Seigneur vous transfuser. Là, je parle comme l'infirmier. Laissez le Seigneur vous transfuser sa personnalité. Laissez le Seigneur vous donner. On lit ce texte, il est beau, sur la miséricorde. Mais en lisant ces textes, on peut rester quand même dur, impitoyable. On peut rester dur avec la veuve et l'orphelin et l'affligé, ne pas s'occuper d'eux. Ce n'est pas qu'on leur fait du mal, on ne leur fait pas de bien. Et quand on ne fait pas du bien, on fait du mal. Alors en lisant ces textes, sur la miséricorde, on peut rester tel que nous sommes, on ne pratique pas. La miséricorde, ça se pratique, ça s'éduque, ça s'apprend, ça se travaille au contact de Dieu, au contact des autres. La pratique de la parole de Dieu, je termine, c'est quoi? En un mot. À quoi ça se résume? Pratiquer l'Évangile. La charité. Et se garder des souillures du monde. Si la parole n'est pas pratiquée dans l'Église, les veuves, les esselés, les malades, les orphelins seront oubliés. Si la parole n'est pas pratiquée, on ne va pas penser à l'Église, elle sera oubliée. Ce ne sera pas notre souci, on ne lui donnera rien. Comme on passe devant un malheureux au bord de la route en ne lui donnant rien, en faisant semblant qu'on n'a plus d'argent dans sa poche. Si la parole n'est pas pratiquée, nous n'aurons pas l'esprit de nous garder des souillures du monde. Nous ne verrons même plus les souillures du monde. Frère, tout le monde le fait. Voilà ce qu'on m'a dit parfois. Tout le monde le fait. Nous ne verrons plus, nous ne serons plus sensibles au mal, au bien. On ne saura plus discipliner ses paroles. critiquera, on jugera, on se mettra en colère. Et on ne sait pas qu'en faisant cela, c'est Jacques qui le dit, il y a quelque chose de diabolique. On est au service du prince de ce monde. Si on ne maîtrise pas ses paroles, il faut pratiquer tout ça. Jésus disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. Si je mets cette parole dans ma vie, si j'en vis, je fais partie de la famille de Jésus. Je suis un frère de Jésus. Vous êtes une sœur de Jésus. Bonjour mes sœurs et mes frères. Amen. Parce que pratiquer, c'est faire comme il a fait, ressembler à notre grand frère, suivre son exemple. Que ferait Jésus à ma place? Alors on l'imite. Un dernier mot. Au dernier jour, quand nous serons devant le grand Seigneur, notre Seigneur que nous aimons, amen, quand nous serons devant son tribunal, nous serons interrogés sur un mot, la miséricorde. C'est à moi que vous l'avez fait. Voilà, la miséricorde. Chaque fois que vous avez donné à manger, que vous avez été visité, que vous avez donné à boire, c'est à moi que vous l'avez fait, la miséricorde. Et si Jésus nous a donné une si grande miséricorde, il nous a aimés, aimés au-delà de tout, avec cette miséricorde, vous êtes heureux. Vous êtes heureux? Amen. Pourvu que vous la pratiquiez. La miséricorde dont je fais l'expérience à travers le pardon et le secours dans mes tribulations, cette miséricorde qu'on expérimente dans les difficultés de la vie, cette miséricorde, elle est faite pour être pratiquée envers les plus démunis, les plus pauvres, les frères et sœurs, la famille. Que Dieu nous bénisse. Amen. Soyons une église, mère de Jésus, frère de Jésus, sœur de Jésus, qui font comme Jésus, qui ressemblent à Jésus, qui pratiquent comme Jésus. Amen. Prions le Seigneur ensemble. Merci pour ta parole qui nous rappelle à l'ordre afin que nous ne partions pas dans la dérive en pensant qu'il nous suffirait d'être baptisés seulement, d'écouter seulement, de lire seulement, alors qu'il nous faut vivre chaque jour comme Jésus, avec Jésus, pour Jésus. Seigneur, rappelle-nous encore ces choses tous les jours de notre vie, afin que nous ne nous endormions pas du sommeil de la mort, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux qui oublient ce qu'ils sont et ce que tu es. Seigneur, aide-nous à regarder dans la parole pour l'accomplir au nom de Jésus. Amen.